baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission Baroque et Classique avec Philippe Frétinier. La dernière fois, on s'était arrêté sur Vaux-le-Vicomte et le Vau. Et vous disiez que c'était un élément majeur qui allait se déclencher par la suite, parce que c'est un château tout à fait remarquable, parce que des gens incroyables, des gens extrêmement remarquables également y ont travaillé, dont évidemment l'architecte Le Vau.
Ben, Le Vau, c'est sa première grande œuvre majeure. Et c'est aussi cette œuvre-là qui va le faire remarquer par Louis XIV, et donc c'est comme ça qu'il va se retrouver à Versailles. Alors, Le Vau et Vaux-le-Vicomte, ça n'a rien à voir, sauf que...
Sauf l'homophonie, mais bon, c'est
sauf
tout.
Sauf que Le Vau est l'architecte du château de Vaux-le-Vicomte. Le château de Vaux-le-Vicomte, c'est le château des trois Le. Le Vau pour l'architecture, Le Brun pour la décoration, le grand peintre ornemaniste, pas seulement ornemaniste, hein, grand peintre tout court, et puis Le Nôtre pour les jardins. Alors ce qui est intéressant à Vaux-le-Vicomte, c'est qu'on est toujours dans ces perspectives classiques de l'architecture. Donc vraiment, on ne voit pas ce qu'on peut trouver de baroque dans tout ça. Encore une fois, j'ai dit que le mot baroque ne rendait pas compte du tout de l'architecture française, ça ne permet pas de la penser. Mais il y a des formes d'italianisme dans l'architecture de Le Vau, qui n'est jamais allé en Italie, contrairement à d'autres, mais qui connaît quand même tout ça par les livres. Il y a énormément de traités, il y a énormément de choses. Je crois qu'on en a déjà parlé.
Oui, bien sûr, les livres et puis aussi les Italiens qui sont venus en France.
Donc, d'abord, il utilise vraiment de façon fréquente ce qu'on appelle l'ordre colossal. Je crois que j'ai déjà expliqué aussi ce que c'était. Donc, en architecture,
oui,
il y a ce qu'on appelle les ordres.
Des trois ordres.
Qui viennent de l'Antiquité. En tout, il y a cinq ordres. Il y a les trois ordres de l'Antiquité, dorique, ionique, corinthien, auxquels on ajoute le composite et puis le toscan. Le toscan étant une version, une dérivation de l'ordre dorique. Donc, c'est un système de proportions avec une colonne, avec une base, et puis un chapiteau et un entablement. En général, il y a un ordre par étage dans un bâtiment, ce qu'on retrouve dans les églises romaines, même quand, par exemple, au Jésus du Vignole, il y a deux étages, donc il y a un ordre par étage. Et en général, quand on utilise des ordres dans un bâtiment, quand on les superpose, on part de l'ordre le plus simple. Si on met du ionique à l'étage, on va mettre du dorique plus simple au rez-de-chaussée. Si on met du ionique au rez-de-chaussée, on va mettre du corinthien plus compliqué, plus complexe à l'étage. Et Bramante et Michel-Ange sont des architectes de la Renaissance qui vont utiliser l'ordre colossal, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser un ordre sur deux étages. L'exemple majeur, c'est Saint-Pierre de Rome. Et Le Vau va utiliser ça à Vaux-le-Vicomte. Donc, sur les façades de Vaux-le-Vicomte, on a des pilastres qui enjambent les deux niveaux du château. Et puis, il y a une autre chose italianisante. Le Vau va beaucoup utiliser les oves, c'est-à-dire les ovales. Et notamment, le grand salon de Vaux-le-Vicomte, qui est, lui, sur deux niveaux, qui s'élève sur deux niveaux, avec cette avancée du bâtiment, avec cette coupole de forme ovale. Et ça, c'est une influence italienne, véritablement, même si on parle de l'atticisme de Le Vau, parce qu'on retrouve ça dans des projets romains et même dans des projets, par exemple, dans le premier projet, je le cite parce qu'on va y revenir pour Versailles, surtout pour le Louvre, le premier projet du Bernin, pour ce qui va devenir la colonnade du Louvre, donc qui ne réalisera pas, il conçoit un bâtiment avec un avant-corps en ovale. Je précise qu'on ne peut pas, en architecture, on ne peut absolument pas dire que le Bernin est baroque. On peut éventuellement parler du baroque de Le Bernin qui fait Sainte-Thérèse, l'extase de Sainte-Thérèse, les fontaines de la Piazza Navona. Mais en architecture, Le Bernin, ça n'a rien de baroque à mes yeux, hein. Et donc, par cette influence italienne, plus ou moins avouée, va avoir une architecture qui va être très déliée. C'est le cas de Volvicomte. Ça va évidemment frapper. Alors, il y a tous les ingrédients pour que Volvicomte devienne une référence. D'abord, les trois artistes majeurs dont le génie éclate au grand jour dans cette construction. Il y a la fameuse fête de Vaux qui va avoir les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire l'arrestation de Fouquet.
Oui, qui aura pour première conséquence de piquer la jalousie de Louis XIV, qui va susciter
une jalousie terrible de Louis XIV, mais qui ne va pas s'y tromper, puisque bon, il fait arrêter Fouquet très vite. C'est le premier acte majeur du règne de Louis XIV, c'est l'arrestation de Fouquet. Hein. Et Louis XIV va faire venir les trois grands leus de Volvicomte à Versailles.
Oui, parce que j'imagine que vous disiez lors de la précédente émission que la bourgeoisie avait voulu montrer sa puissance et sa richesse au cours du XVIIe, notamment par la construction d'hôtels particuliers. Ouais. Louis XIV, qui lui veut affirmer un pouvoir royal extrêmement fort, restauré, va vouloir de la même manière avec Versailles l'affirmer.
Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on peut vraiment classer aussi bien le Louvre que Versailles dans l'architecture publique, parce qu'il y a un effet, il y a un souhait politique, artistique et politique, parce que la dimension artistique est présente chez Louis XIV, j'y reviendrai peut-être après, un peu plus tard, mais il y a vraiment un projet politique. C'est d'ailleurs doublement... symboliser la force du pouvoir à travers une forme de munificence. Et puis en même temps, le pouvoir n'est plus à Paris, il va être à Versailles. Alors pas tout de suite, hein, puisque le transfert de la cour à Versailles ne se fait qu'en 1682. Donc 20 ans en gros après la prise du pouvoir par Louis XIV.
Mais ce que vous voulez dire, c'est que dans le projet politique, il y a chez Louis XIV la volonté de regrouper les nobles au même endroit.
Oui, et puis surtout de tourner le dos à Paris. C'est d'ailleurs, Louis XIV va se désintéresser en quelque sorte du Louvre. C'est beaucoup Colbert qui va insister pour qu'on continue le Louvre. Et donc, c'est aussi une façon de dire, Paris, c'est la Fronde, ça, c'est fini. Donc, le pouvoir est centralisé, il est à Versailles, sous contrôle géographique, en quelque sorte, aussi.
Hein. Oui, on les rassemble.
C'est une nouvelle page qui s'ouvre.
Un camp pour nobles.
Donc, voilà. Alors, donc, l'histoire de Versailles, elle est très compliquée, parce que c'est au départ un château construit par le père de Louis XIV, Louis XIII. Et ça va d'ailleurs compliquer l'existence des architectes auxquels Louis XIV va recourir, parce que Louis XIV va garder, il y a une espèce de côté sentimental, il va garder le château de son père, il va absolument le garder. Et donc du côté cour, ce qu'on appelle la cour de marbre, ce qu'on voit en premier quand on arrive à Versailles, Louis XIV va toujours s'opposer au projet de ses architectes d'englober le château des deux côtés, c'est-à-dire non seulement côté jardin, mais côté cour, par une nouvelle enveloppe. Donc ce qu'on voit aujourd'hui dans la cour de marbre, avec quelques modifications, mais assez peu finalement, c'est le château Louis XIII du père de Louis XIV. Et donc, en 1654, le Bercier, qui était le premier architecte du roi, qui va jouer un rôle dans l'extension du Louvre, puisqu'il construit le pavillon central de la cour carrée au bout de l'aile Lescaut, va devenir donc, à la mort de Le Mercier, Louis Levaux va devenir le premier architecte du roi. Il y a donc évidemment la construction de Volvicomte, et donc Levaux, qui a été embauché par Colbert pour continuer l'extension du Louvre, ce qui va devenir la cour carrée, en 1664, il part sur le chantier de Versailles. Donc Levaux n'exerce plus à Paris. Donc c'est là qu'il va y avoir une succession de projets. Colbert va lancer un concours en 1664 justement pour un concours d'architecture pour terminer le Louvre, qui va d'ailleurs aboutir en 1671 à un autre concours, qui est le concours pour un ordre français, le sixième ordre, j'en ai déjà parlé, hein, oui, c'est cette volonté d'idiome national, hein, de franciser absolument, de se saisir de l'architecture et d'en faire quelque chose de l'ordre du génie national. Donc les deux grands projets vont devenir Versailles et le Louvre. Le Louvre étant surtout dirigé par Colbert, puisque Cadot s'intéresse pas trop à Paris. Et le premier architecte qui va construire l'enveloppe côté jardin du château de Versailles, c'est Louis Le Vau. Alors aujourd'hui, on a une idée un peu faussée du projet de Le Vau. Il faut voir la gravure d'Israël Silvestre qu'il représente bien. Parce que au départ, sur le jardin, Louis Le Vau construit un bâtiment en U, justement. C'est-à-dire qu'il adosse une façade à la partie arrière du château de Louis XIII avec deux ailes. Et entre les deux, il y a une grande terrasse. Et donc, si on peut encore le lire aujourd'hui, parce que on voit très bien que les deux extrémités, gauche et droite, du château de Versailles, correspondent à des pavillons avec un ressaut central qui est assez étroit, qui se comprend d'ailleurs dans la perspective du fait que c'était une aile. Et puis, au fond, donc, la même façade avec un ressaut central aussi, qui correspond donc au pavillon central, volume très réduit. Et cette terrasse, évidemment, au point de vue climat, ça, à Versailles, ça ne marche pas du tout. Donc, très vite, il y a l'idée de couvrir cette terrasse, et c'est là qu'on va faire la galerie des glaces. Et donc, c'est là que va arriver le deuxième grand architecte de Versailles, qui va être le grand architecte qui va clore le XVIIe, c'est Jules Hardouin Mansart, le neveu de François. Mais ça, je vais y revenir après.
En attendant, on va écouter à nouveau une pièce de musique de clavecin-luth. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que
oui.
c'est ?
Alors, clavecin-luth, c'est un instrument un peu mystérieux parce qu'on n'a pas d'instrument qui nous soit parvenu. Le clavecin-luth, c'est un clavecin, mais avec des cordes en boyau au lieu d'avoir des cordes métalliques. Donc, d'où l'idée, parce que de luth, hein, les cordes en boyau comme au luth.
Ouais.
Alors, d'ailleurs, certains textes de l'époque, on a quelques textes, il y a trois textes qui parlent d'un clavecin-luth. Il y en a un qui dit carrément, sans doute que c'est un petit peu exagéré, que voilà, on a placé derrière un rideau quelqu'un qui est en train de jouer du clavecin-luth, et les gens qui l'entendent pensent que c'est du luth qu'on est en train de jouer. Alors, on sait qu'il y a des instruments qui ont existé par l'inventaire des biens de Jean-Sébastien Bach à sa mort, où il y a une longue liste d'instruments dans lesquels il y a un clavecin-luth de mentionné par un certain Nikolaus Bach, qui est un cousin de Bach, qui fabriquait des clavecins. Et donc, on est sûr que ça existait. On a l'instrument qu'on va entendre, c'est une proposition de restitution par un facteur américain qui s'appelle Willard Martin. Mais c'est une proposition parmi d'autres parce qu'on n'a pas de document instrument parvenant. Mais voilà, c'est très très beau. Et on va entendre de la musique de Dowland, un musicien donc anglais.
Thank you.
Juste avant cette pause musicale, vous nous parliez de cet autre architecte majeur, donc neveu de François Mansart, oui. Ardoin Mansart, oui. Jules Ardoin Mansart.
Voilà. Alors, donc, le Vau meurt, alors j'ai plus la date, je crois que c'est 1678, la date de la mort de Le Vau, sous toute réserve, hein, parce que je dis ça de tête. Et donc, les travaux sont pas finis. De toute façon, Louis XIV s'intéresse énormément aux arts, et notamment, alors c'est bien connu, la musique, mais aussi l'architecture. Et donc, Louis XIV, au grand désespoir de Colbert, suit de très près le chantier. Il fait défaire, refaire, enfin, ouais. C'est... Voilà. Et donc, d'ailleurs... Colbert s'arrache toujours les cheveux et un jour Louis XIV dit « Mais non, on se complète très bien, moi pour l'architecture et vous pour les dépenses. » Donc, il y a donc cette idée dont je parlais tout à l'heure de supprimer cette terrasse qui est un espace venteux. Bon, oui, le climat
serait très bien en Italie, mais pas
voilà,
ici.
Le climat de l'île de France, c'est pas le climat de l'Italie. Quoique en Italie, l'hiver, il fait pas toujours très chaud non plus.
C'est vrai.
Mais voilà, donc on décide, et finalement c'est très bien puisqu'on fait la fameuse galerie, j'ai parlé des galeries dans des hôtels particuliers, alors là évidemment c'est une galerie version XXL Louis XIV, et donc ça c'est Ardoin Mansart qui intervient. Alors il déploie beaucoup de talent parce que cette galerie évidemment va être assez haute, elle fait de mémoire elle fait 12 mètres de haut, donc elle va dépasser la hauteur de l'étage. Ardoin Mansart va garder l'idée de Le Vau d'un étage, plus un étage d'attique et juste un garde-corps. On voit pas les toits, hein, des toits très plats. Donc, il va se servir de l'étage d'attique pour cacher la hauteur supplémentaire de la galerie par rapport à l'étage. Mmh. Donc, c'est très habile. Il va transformer les ouvertures. Les fenêtres sont rectangulaires. En cela, elles sont tout à fait typiques de l'architecture française du XVIIe, des bâtiments privés, qui viennent d'ailleurs finalement plus de l'architecte, de la forme de la fenêtre médiévale que de l'ouverture à l'italienne. Il va transformer les hauts des fenêtres en plein cintre plutôt que des fenêtres rectangulaires. Il avance donc la façade du fond sur devant, il l'aligne en fait sur le bout des ailes. Hein. Mmh. Et donc derrière, il y a la fameuse galerie des glaces dans laquelle va intervenir Lebrun comme décorateur en chef, premier peintre du roi. Et tous les travaux qui vont être faits à Versailles par la suite... Ça va être Jules Ardoin Mansart qui va construire notamment les grandes et les petites écuries sur la place, la chapelle qu'il ne finira pas, donc c'est son élève disciple Robert de Cotte qui va terminer la chapelle de Versailles, puisqu'on ne construit une vraie chapelle à Versailles que très tardivement dans le règne de Louis XIV. Hein, donc c'est vraiment à la toute fin du XVIIe. Et donc Ardoin Mansart n'aura pas le temps de la terminer. Ardoin Mansart, c'est aussi l'architecte qui démarre l'église des Invalides, hein, de l'hôtel des Invalides. C'est quelqu'un qui a, parmi de nombreux points communs avec son oncle, une grande science de la stéréotomie, c'est-à-dire l'usage de la taille des pierres, notamment pour faire des voûtes. Il va construire d'ailleurs une pure merveille, qui est l'hôtel de ville d'Arles. Et si vous allez à Arles, il faut absolument rentrer dans ce hall qui est couvert par une grande surface couverte d'une seule voûte. Et pour que ça puisse tenir, donc des systèmes de voûtes qui s'interpénètrent et donc les forces se répartissent, s'équilibrent et ça permet de couvrir un grand espace sans colonne intermédiaire. C'est un chef-d'œuvre de stéréotomie, je crois que c'est le plus beau chef-d'œuvre de stéréotomie qu'on peut trouver en France. Et donc ça c'est vraiment la grande figure marquante de la fin du XVIIe.
Qui va intervenir aussi d'ailleurs dans des projets d'urbanisme.
Alors,
enfin pas des projets, des réalisations d'urbanisme.
Alors, ça, avec le retour d'un pouvoir fort, il y a la volonté de projets d'urbanisme qui sont un mélange de projets privés et publics. Il y a la volonté d'avoir une grande place qui va être la place Vendôme. Alors, on recourt à un procédé. Donc, Parce qu'il y a quand même un problème de finances, donc ça
oui,
va être...
Oui, et puis une place, c'est un objet architectural un peu particulier, dans la mesure où c'est aussi un espace vide, ce sont des façades, ce sont des bâtiments, là où des gens vont habiter, être propriétaires, etc. Donc, bon.
Alors, donc c'est en fait, ça va être... Parce que la grande chose qui va se passer au 17e avec l'arrivée des financiers, c'est ce qu'on appelle les lotissements. On a grandi Paris par des lotissements, donc on va faire un lotissement pour la place Vendôme. Donc ce sont des particuliers qui vont construire des hôtels tout autour de la place, mais les façades seront construites. C'est-à-dire qu'ils vont construire des hôtels particuliers derrière une façade.
Derrière quelque chose qui est prévu, qui
c'est
est coordonné par le pouvoir.
L'utilisation du terme ordonnance en architecture vient de là, parce que donc il y a des ordonnances qui sont édictées pour que les futurs propriétaires construisent des bâtiments qui respectent la façade qui a été construite sur la rue, et puis avec des principes pour ce qui va se faire derrière, notamment au niveau des toitures, et donc pour que ce soit très codifié. Donc il y a des ordonnances qui sont publiées, et le mot va passer dans l'architecture comme ça. Donc il y a le projet de la place Vendôme, qu'on peut toujours voir aujourd'hui, qui est un projet majeur, qui montre bien tout l'art de Jules Hardouin-Mansart, avec là aussi l'ordre colossal. Dans un premier temps, il prévoit des chapiteaux ioniques, finalement il va utiliser des chapiteaux corinthiens, mais il va revenir aux chapiteaux ioniques, et notamment il va construire aussi la place des Victoires, qui est un autre chef-d'œuvre parisien de Jules Hardouin-Mansart, et puis la place d'armes de Dijon, là où il y a l'hôtel de ville. Donc c'est vraiment trois projets majeurs, et on voit donc l'urbanisme réapparaître, mais là on est à la toute fin du 17e, on est dans les années 1685-1690, donc il a fallu attendre que finalement il y ait une réaffirmation forte d'un pouvoir royal pour qu'on revoie de l'urbanisme venir.
Oui, parce qu'il faut être capable aussi de pouvoir imposer par ordonnance des contraintes architecturales fortes,
voilà,
pour des privés.
Voilà. Et puis bon... On est dans une période, le règne de Louis XIV est très compliqué parce qu'il y a une succession de guerres et autres, mais sur le plan intérieur, il n'y a plus de troubles, donc on peut se consacrer à l'architecture.
L'architecture, et puis noter peut-être aussi par le biais de l'architecture, quelque chose comme une notion d'ordre,
le mot ordre, on peut l'utiliser dans bien voilà. Des façons, l'ordre, les ordres d'architecture, mais l'ordre tout court aussi.
Oui, puisqu'on continue donc à avoir un prolongement d'un pouvoir politique qui s'affirme aussi comme ça, contrairement au pouvoir privé.
Donc
précédent.
On voit vraiment revenir cette idée de l'urbanisme qu'on retrouvera au 18e avec de grandes figures, bon, la place de la Concorde, les bâtiments de Nancy, la place de Nancy avec Emmanuel Herret. Il va y avoir de grands projets dans le courant du 18e d'urbanisme, mais ça redémarre à la fin du 17e, et la figure majeure dans le domaine de l'urbanisme, c'est Jules Hardouin-Mansart, qui nous a donc laissé trois projets majeurs qu'on peut voir quasiment intacts. Je répète, la place Vendôme, la place des Victoires, qui est un peu moins connue, c'est bien dommage, et la place d'armes de Dijon.
On parle d'urbanisme, on parle donc beaucoup de ville, nécessairement, mais il y a un autre élément extrêmement important, et là on va peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur les palais, les châteaux, c'est à cette époque-là le jardin, bien évidemment.
Oui. Alors le jardin dans l'architecture italienne a une importance très grande, hein, avec dans son rapport avec le palais, les fameux jardins de Boboli du Palais Pitti. Ça va venir en France. Alors au début, on est vraiment sur des jardins à l'italienne, et puis là aussi, cette volonté, hein, d'avoir un immeuble national. Et en plus, on a la personne qui va l'incarner, qui est un véritable génie, c'est André Le Nôtre. Dans le premier projet, qui à mon avis est le plus exceptionnel, en tout cas il m'intéresse encore plus que Versailles, c'est justement le château de Vaux-le-Vicomte.
Alors on y reviendra effectivement dans les prochaines émissions.
Voilà, le jardin du château de Vaux-le-Vicomte. Le Nôtre va articuler... Le jardin avec le château. Hein, donc c'est ça tout son génie, alors par le biais de perspectives, des perspectives qui vont conduire vers le château, des perspectives qui vont se développer à partir du château, ça marche dans les deux sens, et qui vont être vraiment, le projet de Lenôtre à Vaux-le-Vicomte, c'est vraiment l'espèce de présentoir du château. Plus on descend dans le bas du parc, plus on voit le château apparaître sur une sorte de présentoir qu'est le jardin conçu par Lenôtre.
C'est pratiquement déjà de l'architecture paysagère. Nous en parlerons lors de la prochaine émission. En attendant, nous allons écouter une pièce de Scarlatti.
Oui.
Joué par Scott Ross.
Voilà, alors je ne suis pas le seul, heureusement, mais j'aime évidemment beaucoup Scarlatti, qui a développé une écriture très, très idiomatique en rapport avec l'instrument. Donc, c'est un musicien d'origine napolitaine, mais qui a passé sa vie dans un premier temps au Portugal et ensuite en Espagne au service de la reine Maria Barbara. Et en plus, j'ai une deuxième raison de vouloir qu'on écoute cette interprétation-là, parce que il y a vraiment eu trois clavecinistes majeurs, dont deux sont disparus déjà, au XXe siècle. C'est Gustav Leonhard, Kenneth Gilbert et Scott Ross. Et Scott Ross a érigé un véritable monument, puisqu'il a enregistré les 555 sonates de Scarlatti.